Trump, anatomie d'une révolution.
Arrivé au pouvoir il y a plus de 10 ans, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l'ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée, portée par des penseurs encore méconnus en France, entre post-libéralisme et national-conservatisme.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Maya Kandel.
Épisode 2, 2015, l'annonce.
Nous n'enregistrons plus de victoires. On ne bat plus la Chine, le Japon. Ce sont eux qui nous battent. L'Amérique est devenue un dépotoir. Il faut que ça s'arrête et que cela s'arrête vite. Donald Trump, extrait de son discours de candidature à la présidence, New York, le 16 juin 2015. On poursuit notre conversation avec Maya Kandel, l'historienne, spécialiste du Trumpisme et de Trump donc en particulier. Là, c'est un moment majeur, la descente sur l'escalator, tout est doré, on est dans la Trump Tower. D'abord, racontez-moi un peu cette mise en scène surprenante de l'annonce d'une candidature. On est plutôt habitué à des ballons, quelque chose d'un peu festif. Là, c'est quand même très particulier.
C'est l'entrée en campagne la plus kitsch de l'histoire politique contemporaine. Non, en tout cas, ça, c'est évidemment, ça colle parfaitement au personnage de Trump. Et le fait qu'il fasse ça dans la Trump Tower, qui était là où était filmée sa série de télé-réalité, tout cela est lié. C'est quelqu'un qui utilise évidemment sa célébrité pour lancer sa carrière politique dans un discours qui déjà pulvérise toutes les normes du langage politique aux États-Unis. Il parle dans ce même discours des Mexicains qui sont tous des violeurs, oui. Que les pays envoient le pire.
Le dépotoir, on a dit.
Voilà, c'est vraiment un discours extrêmement violent et on est un peu dans l'antithèse de l'optimiste américain de Reagan. Voilà, on n'est plus du tout Morning in America.
It's Morning Again in America.
Voilà, ouais. Non, là c'est l'inverse, c'est le carnage américain. Dans un autre discours, il parlera de l'Amérique qui se fait violer par la Chine. Enfin, vraiment toujours des termes extrêmement violents. Et c'est le but, en fait. Le premier point, c'est que Trump, dans sa campagne, va utiliser ce qu'il utilise depuis toujours, c'est-à-dire la transgression, la provocation, pour attirer l'attention.
Mais n'allons pas trop vite. Il ne se présente pas en 2011, mais là, en 2015, il se présente. Qu'est-ce qui le fait changer d'avis à ce moment-là? Est-ce que c'est uniquement une réflexion un peu de politologue sur le paysage politique? Il se dit, tiens, après 2 mandats d'Obama, il y a une bonne chance qu'un républicain l'emporte, ou bien il y a autre chose?
Alors, je pense qu'il y a avant tout un constat très basique que Trump peut faire, c'est qu'en 2016, il va avoir 70 ans.
Oui.
Et que donc, le temps lui est quand même un peu compté. Alors, il ne sait pas encore que 2016 va être l'année des outsiders en politique, mais il s'est entouré depuis 2011, non seulement de Bannon, de nouveaux conseillers, il s'est mis aussi très activement sur Twitter. Il s'était inscrit en 2009, je ne sais pas, il y avait peut-être 100 de tweets en un an. Il passe en 2011 à 100 de tweets par mois. Donc, il investit et surtout, pour lui, Twitter, c'est une manière d'entrer en contact et de voir la résonance de certaines idées auprès d'une masse de gens avec qui il n'avait pas de contact jusqu'ici.
Il teste
des idées, il teste pour voir jusqu'où il peut aller. Il voit qu'il peut aller toujours plus loin et qu'en fait, c'est même la recette de la viralité et de son succès. Donc, il reprend en fait cette manière d'être un peu berlusconienne aussi, la transgression, le conflit, les mêmes recettes en fait que la télé-réalité, mais qui sont aussi les recettes de viralité des algorithmes.
Mais alors, dans ces conditions, est-ce que quand il annonce sa candidature, donc le 16 juin 2015, dans la Trump Tower, d'une manière assez que vous avez qualifiée de kitsch, en tout cas surprenante, atypique, est-ce que l'ensemble du monde politique le regarde avec un peu de dédain ou se dit, tiens, c'est une nouvelle transgression de la part de Donald Trump visant à faire parler de lui, de son business, mais évidemment, il ne deviendra jamais le président des États-Unis. Et d'ailleurs, question aussi peut-être un peu secondaire, vous-même, comment vous avez entendu ça? Est-ce que vous vous êtes dit, attention, prenons-le au sérieux?
Alors, le grand drame, effectivement, de Trump, et aujourd'hui le grand drame des États-Unis, c'est de ne pas avoir pris Trump au sérieux jusqu'à très tard. Mais en 2015, Trump est déjà en train de préparer donc cette candidature très sérieusement. depuis au moins 2011, et en fait même on peut remonter à 2009. Dans mon livre, je montre que dès 2009, il rencontre les poids lourds de la droite évangélique américaine, alors que c'est quelqu'un qui jusqu'ici fréquentait Mike Tyson, Dana White, ou des célébrités.
Jeffrey Epstein
aussi, mais pas spécialement Pat Robertson ou des gens comme ça. Donc ça, c'était déjà un signe qu'il y songeait sérieusement. En 2015, il rencontre à la fois aussi les grands acteurs des lobbies pétroliers. Il rencontre aussi la chef du mouvement anti-avortement. Donc, en gros, il est déjà en train... Il pose des jalons pour approcher vraiment les groupes d'opinion, les groupes militants, les activistes les plus importants du Parti républicain. Mais... de fait, on ne le prend pas encore au sérieux, même s'il a déjà été approché par des responsables du parti pour défendre la candidature de Romney en 2012, parce que déjà à l'époque, les activistes du parti se rendaient bien compte qu'il y avait tout un tas de gens qui ne votaient plus républicains, en particulier les laissés pour compte, les hommes oubliés de la mondialisation. Bon, ouais. Ça, c'est Bannon qui utilisera cette expression. Ouais. Voilà, ils sont bien conscients que ce Trump a un attrait auprès de populations, en particulier de populations qui ne votent plus.
Mais quand il se lance en juin 2015, les primaires commencent en janvier de l'année suivante, au début de l'année 2016, comment le Parti républicain accueille ça? Est-ce qu'ils se disent, ok, c'est un de plus, mais il y a très très peu de chances qu'il l'emporte face, je sais pas, à Marco Rubio ou aux autres qui se lanceront ensuite?
Oui, clairement. D'ailleurs, il y a très peu d'élus au départ qui le soutiennent. Et il y a énormément de gens, aussi bien dans la classe politique que dans les centres de réflexion, les think tanks, etc., qui soit prennent ça à la blague, soit disent « jamais on ne votera pour Trump ».
Alors, à quel moment, pendant les primaires, ça bascule? Par exemple, on sait qu'en 2008, quand il remporte l'Iowa, on se dit « tiens, il se passe quelque chose autour de Barack Obama ». Est-ce qu'il y a un moment comme ça qu'on doit avoir en tête dans la quête du pouvoir de Donald Trump? D'abord les primaires, on verra ensuite l'élection générale dans l'épisode suivant, mais d'abord pour battre les autres, c'est pas facile de gagner les primaires. À quel moment est-ce qu'on se dit « tiens, attention à Trump » ?
Alors je pense qu'il y a deux moments clés. Ce qu'il faut voir, c'est que ces primaires 2016 sont marquées par un nombre très important de candidats. Donc déjà, il y a un éparpillement des voix. Alors même qu'on a déjà vu le renouvellement du Parti républicain avec les élections de mi-mandat en 2010 et à nouveau en 2014, où on a vraiment vu des défaites symboliques du speaker républicain. Donc vraiment, cette insurrection populiste au sein du parti, voilà, le dégagisme, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. Et puis en face, on a dans les candidats, comme toujours à la primaire, on a encore un Bush, hein, Jeb Bush, le gouverneur de Floride.
Qui était le favori à un moment donné.
Qui a été le favori. On a des gens vraiment très représentatifs de l'establishment, comme Marco Rubio à l'époque, qui est très marqué côté néoconservateur. Et puis des outsiders dont on a pu penser un temps qu'ils auraient une chance, comme Rand Paul, mais qui n'ont aucun charisme et donc ça prend pas, en quelque sorte. Le premier moment décisif, je dirais, c'est en février 2016, il y a un débat avec tous les candidats républicains. Ces débats sont très regardés parce qu'il y a encore le côté divertissement. Mais c'est-à-dire, on sait que Trump va encore dire un truc aberrant ou insultant, ou voilà, et donc on regarde pour voir le clash.
C'est le génie, si je puis dire, de Trump, que d'avoir compris la machine médiatique bien plus que peut-être ses adversaires.
Absolument, et avant eux, en tout cas. Et donc dans ce débat en février 2016, en fait, Trump va faire ce qui est la première grande critique féroce de ce qu'a fait l'administration Bush après les attentats du 11 septembre, c'est-à-dire les guerres en Afghanistan et surtout en Irak. C'est la première fois que quelqu'un donc, qui prétend à la présidence du pays, côté républicain, fait une telle critique de ces guerres. Il y avait eu bien sûr des critiques côté démocrate. Et il le fait en s'adressant directement à Bush et aux autres candidats trop marqués establishment. Et ça, c'est un point très important parce que ce rejet des guerres de Bush est très fort dans le mouvement Tea Party, déjà, où on voit un peu ce retour de l'isolationnisme. Ouais. Et donc, il va, avec cette critique, séduire aussi une part de l'électorat chez les anciens combattants, qui sont une part importante de la population, et notamment de l'électorat républicain, et qui ont plutôt voté Trump à majorité au cours des trois cycles où il s'est présenté.
Et vous disiez, il y a un autre moment, après février 2016, un autre moment de bascule, peut-être pendant cette première élection.
En fait, il y a plusieurs discours importants, mais je pensais à un discours en mai 2016, je crois qu'il fait en Pennsylvanie, donc c'est l'état de la ceinture de rouille, comme on dit, de la Rust Belt, où il fait un discours là extrêmement virulent contre la mondialisation. À ce moment-là, donc On sait déjà que Hillary Clinton va être la candidate côté démocrate. Et il assimile Clinton à cette élite globaliste. Alors tout ça, c'est des mots clés, codés, etc., qui vend les États-Unis, leurs entreprises et le sang de leurs enfants à des pays étrangers ou pour des causes étrangères. Et donc, c'est là qu'il fait vraiment un manifeste nationaliste, patriote, en disant « moi, je vais défendre les travailleurs américains, je vais défendre l'homme oublié, les hommes oubliés de la mondialisation ». Et je vais défendre la chrétienté aussi. Bon, ça, c'est un autre point, mais qui est important. Et là aussi, ce discours, enfin, en tout cas, ce qu'il représente dans la campagne de Trump en 2016, est vraiment extrêmement important. Parce que aussi, Clinton et Hillary est assimilé aussi à son mari. Il y a un rejet aussi.
On va en parler de ça dans l'épisode suivant. On se demandera si Hillary Clinton était peut-être la meilleure des candidates pour Donald Trump, pour la battre. C'est facile de le dire après, mais on en parlera, on se posera la question après. Mais je reviens sur la fin des primaires républicaines. Quand il a gagné ce moment-là, est-ce que le Parti républicain se met derrière lui? Et si oui, derrière quelle plateforme idéologique? Parce qu'on sait souvent qu'à la fin, celui qui gagne, il est obligé de faire des compromis, d'aller quand même essayer de choisir un peu la voie médiane au sein du Parti républicain. C'est pas trop le genre de la maison Trump, ça?
Alors non, la tactique de Trump, ça a toujours été l'inverse. C'est d'aller plus vers l'extrême, alors que jusque-là, la règle un peu traditionnelle de la politique américaine, c'était pour la générale, on se recentre. Ouais. Donc Trump, clairement, ne fait pas ça. L'impact sur le Parti républicain, alors il y a quelques élus qui l'ont soutenu dès le début des primaires, qui se comptent sur les doigts d'une main, mais la majorité des autres élus, comme c'est la pratique aussi aux États-Unis, ont déjà donné leur soutien à d'autres candidats. Et on sait que pour Trump, la qualité la plus importante, c'est la loyauté, donc il n'est pas prêt d'oublier ça. Donc à ce moment-là, on a plutôt une élite du Parti républicain déboussolée, déprimée, qui va commencer justement à faire des manifestes. C'est à ce moment-là qu'on a les grandes prises de position, lettres, des Never Trump.
Non, on l'a oublié un peu, ça quand même.
On a plutôt un parti qui n'est pas trop pour et puis qui pense à ce moment-là qu'il va perdre. Alors, c'est une illusion...
largement partagée.
Largement partagée. Les sondages, à ce moment-là, ils sont pour beaucoup. Et Trump arrive... Alors, en termes de... Donc, il a ses idées fixes sur le libre-échange, les alliances. Et puis, il a cet apport de Bannon, donc cette idéologie nationale populiste, qui va se préciser à partir du moment, à l'été 2016, où Bannon devient son directeur de campagne.
Donc très tard. Mais il était en sous-main déjà? Est-ce que c'est une espèce de validation d'une réalité ou vraiment il entre en campagne à ce moment-là, Bannon?
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la campagne de Trump est en très mauvaise posture. Il y a toute une série de scandales, de proximité avec les Russes déjà à l'époque, des déclarations de Trump, etc. Et en fait, c'est l'un des financiers d'un autre candidat qui était Ted Cruz, qui est arrivé en second dans les primaires républicaines, qui avait lui aussi repris le slogan America First, d'ailleurs. Donc la famille Mercer, qui est vraiment famille extrêmement importante dans la politique et dans la réorientation du Parti républicain et de l'écosystème médiatique aussi. Robert Mercer, donc le patriarche, milliardaire, etc., proche de Bannon, va dire à Trump, embauche Bannon.
Ah oui.
Et Trump lui-même le dira quelques mois plus tard, il dira, Robert Mercer, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc quand il m'a dit de prendre Bannon, je l'ai fait.
Donc Trump peut écouter, c'est aussi la leçon de cela. Il écoute souvent les milliardaires d'ailleurs, quand il sent la défaite arriver. Mais la défaite n'arrivera pas, c'est la victoire en 2016. Ça sera pour beaucoup une forme de sidération, y compris au sein du Parti républicain. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. Trump, Anatomie d'une révolution, est un podcast original de France Inter.